Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Clément Marcoux. Bonjour Clément, bah merci. Merci de nous accorder un petit peu de temps.
Salut Guillaume, comment tu vas?
Bah ça va très bien, écoute. Alors là, on va faire le point parce que les gens, en tout cas, celles et ceux qui ne te connaissaient pas, t'ont découvert dans la sueur en sueur. Là maintenant, on va prendre un petit peu plus de temps pour voir un peu ce que toi tu fais. Donc quand on est arrivé, il y avait déjà les machines des enfers qui étaient arrivées. Là, est-ce que tu en as d'autres qui sont arrivées? Est-ce que là, ça y est, ta salle est complètement optimisée? Puis si tu peux aussi brièvement avant présenter un petit peu toi, ton institution et qu'est-ce que finalement tu représentes en quantité.
Moi, comme je te disais, j'ai attaqué les sports de combat à l'âge de 10 ans à peu près. Je viens de la boxe, mon père était boxeur, donc ils ont une salle de muscu, donc j'ai baigné dedans. Et c'était eux qui avaient un club aussi de sport de combat. Et après, j'ai combattu un peu dans toutes les disciplines pour faire court. Après, j'ai repris plus tard. J'ai monté ma salle il y a 14 ans, ma première structure. Et en fait, j'ai repris les études parallèlement. Et, parce que j'avais arrêté l'école très jeune, j'ai repris et je suis allé jusqu'au master à l'INSEP. Donc, j'ai fait tout mon cursus de formation pratiquement à l'INSEP. Et j'ai repris par le cursus pro. C'est-à-dire que j'ai repris par le BP, le DE et le DES, donc le cursus professionnel. Donc pour les gens qui sont déjà en activité, ça m'a permis de réintroduire l'université. Et là, j'ai pu apprendre d'être olympique, d'entraîneur olympique, etc. C'est ce qui m'a donné en fait l'idée en fait, de créer cette structure, ce centre de performance. Parce que malgré tout, je ne trouvais pas les outils que je voulais, même à l'INSEP, malheureusement, même s'ils sont super bien équipés, il y avait des outils qui... Bon, je ne sais pas s'ils ne les connaissaient pas ou quoi, mais peut-être qu'ils n'avaient pas aussi la liberté de pouvoir les commander, etc., parce que c'est très particulier. Mmh. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, de commander tous ces outils que j'avais vus nulle part. Parce qu'en fait, il faut savoir, je les avais vus dans quelques salles aux États-Unis, mais elles n'étaient pas toutes réunies au même endroit. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais allé à New York m'entraîner, j'avais vu des reverse hyper, mais je n'avais pas vu de bell squat, je n'avais pas vu des Kaiser, tu vois. Et en fait, moi, je voulais un endroit où il y ait tout, qui fait pour moi les meilleurs outils qui allaient me permettre de faire atteindre la performance à n'importe qui, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ou aux combattants professionnels ou aux footballeurs professionnels. Donc, c'est là, en fait, c'est la troisième version de la structure, parce qu'à la base, on faisait du crossfit parallèlement, en fait, au MMA, etc. Donc, on avait une boxe de crossfit. Et après, on en est revenu. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas se limiter, en fait, à une activité. On ne voulait pas se limiter, par exemple, au street workout, à l'haltérophilie, à la gym, au cardio, etc. On voulait vraiment avoir une multitude d'outils qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et surtout de faire atteindre leurs objectifs aux autres.
Et là, justement, faire atteindre leurs objectifs aux autres. Donc, tu as dit, tu as parlé de monsieur et madame tout le monde. Là, les machines que tu as, tu nous expliquais justement que... Enfin, un, elles étaient très rares, c'était aussi un énorme investissement de votre côté. Est-ce que justement, toi là aujourd'hui, maintenant que tu as cette structure, tu as envie, on va dire, de te spécialiser vraiment, vraiment vers les athlètes de haut niveau et plus particulièrement MMA? Parce que c'est vrai que tu as cet espace-là où il y a toutes les machines, mais il y a aussi l'espace qui est plus combat.
Alors nous, comme je t'ai dit, on ne fait que l'individualisation. Mmh. Parce que sinon, je te promets... Je peux te montrer les messages, mais j'ai au moins 1000 personnes qui nous ont écrit pour venir s'entraîner en accès libre.
Okay.
Ça va du powerlifter au rugbyman pro, par exemple, tu vois. Mais nous, on est spécialisés dans l'individualisation et ces outils sont faits pour l'individualisation. Et comme on n'a pas des places à l'infini, bah, automatiquement, on sélectionne les individus. Et donc, oui, déjà, on intervient sur la programmation. En fait, moi, je ne veux pas intervenir que sur le MMA. J'aime bien intervenir sur plusieurs disciplines. Maintenant, ma spécialité, c'est le sport de haut niveau. J'ai été formé pour préparer des sportifs de haut niveau. C'est ma formation. Le master que j'ai passé, le DES, c'était pour la performance sportive et le sport de haut niveau. J'en suis quelques-uns à distance, qui soient dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple comme Reda, tu vois, qui est au Japon, ou Abdul pour ce qui est du MMA. Donc les deux
Abdul, Abdul Aguimar. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et mais malheureusement, Abdul, il n'est pas chez nous. Donc, on va le faire venir en stage pour qu'il fasse des stages de prépa et qu'il puisse lutter. On le lie aussi au schéma technico-tactique.
D'accord.
Donc, ça fasse un ensemble. Et, mais malheureusement, voilà. Et après, on prépare aussi l'Aïziruni, qui combat ce week-end à l'Abu Dhabi Warrior.
Ouais, complètement.
Tu vois, c'est quoi cet événement? Il a combattu au Bellator aussi. Mm-hmm. Il a battu Naïeb, Ezam, en pancras à l'époque. Donc ouais, c'est un très bon combattant. On a préparé à l'époque aussi Elias Bou. On a Frédéric Morlon, mon associé aussi, qui a 4 combats, 4 victoires par soumission. Donc voilà, on est. Après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans. Tu sais, ça fait 14 ans que j'entraîne. Mm-hmm. Ça fait 14 ans, mon premier club, c'était un club de MMA. Je ne suis plus dans une optique de former quelqu'un. C'est-à-dire que.
Quand tu dis ça, quand tu dis plus former, c'est. Le prendre de A à Z, enfin l'avoir le gars qui est vraiment novice et la
non,
même.
Non, non, ça...
Toi, tu veux des gars qui sont ça déjà. Ouais.
Voilà, exactement. Je vais expliquer pourquoi. En fait, tout au long de mon parcours, moi, j'ai eu la chance d'entraîner pas mal de personnes.
D'accord.
J'ai eu la chance aussi d'accompagner Taylor à l'UFC Berlin grâce à Fernand, tu vois, qui était mon tuteur à l'INSEP. Et j'ai toujours, tu vois, Taylor, par exemple.
Taylor Lapillus,
Taylor Lapillus. Quand Taylor Lapillus, il a un combat, souvent il m'envoie des vidéos de ses adversaires pour que j'analyse, il m'envoie ses vidéos de sparring, etc. Là, c'est vraiment, je prends du plaisir, tu vois. C'est mon vrai plaisir, c'est-à-dire d'analyser un combattant aussi fort que Taylor, etc. Là, je prends énormément de plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup de combattants. À l'époque, quand j'organisais le FMC, j'avais une dizaine de combattants que j'avais formés donc de A à Z. Et j'ai été un peu déçu, on va dire... en voyant ce qui se passait chez moi,
d'accord.
En voyant ce qui se passait autour. Et je me suis rendu compte en faisant le point que quasiment tous les grands clubs que j'ai connus en France depuis le début, d'accord. Donc depuis une quinzaine d'années, ben je réalise qu'en fait, ils ont toujours le même mec pratiquement qui les représente. D'accord. Alors, il y a eu du turnover, mais il y en a eu très peu en réalité. Tu vois,
quand tu parles de même gars qui le représente, tu parles de même coach, c'est ça? Ou tu veux... qu'est-ce que tu veux dire?
Non, je parle de combattants.
D'accord.
Je parle de combattants. À part le MMA Factory, vraiment, que je trouve qu'il y a un renouveau.
C'est
tu vois.
Ça, ouais.
Et un peu la Hatch Academy également aussi.
C'est clair.
Tu vois que c'est... Voilà. Mais tu te rends compte souvent, surtout en province, que c'est le même combattant, on va dire.
Ça s'arrête à une génération.
Pendant... Voilà. Ben, tu vois, par exemple, tu prends Marseille, ben, c'est toujours Vincent Delguera qui est connu.
C'est
toujours Ilyes Giroun qui combattait au FMC il y a 10 ans, tu vois. Chez nous, c'est Elias Bou. À la bonne école, par exemple, qui combattait il y a 10 ans au FMC aussi, tu vois, et que je m'entraînais avec lui, ou le gamin, je m'entraînais avec lui il y a une dizaine d'années avec Elias. Donc, en fait, je me suis aperçu que quand je vois son frère Amine, quand je vois tous les gens autour de nous, ou Jimmy Vienno, par exemple, en boxe thaï chez Montpellier, pareil, son entraîneur Dédé, et je m'aperçois que ces gens se sont impliqués quasiment pendant 20 ans, et à la fin, au final, tu as, je te parle d'un mec de haut niveau, on ne parle pas de gens lambda, tu as un mec, tu vois. Un mec, on va dire, qui sort réellement du lot.
Ouais.
Tu le vois avec Mansour, par exemple, et son entraîneur. Après, c'est sûr que trouver un deuxième Mansour, ben, c'est rarissime, quoi. C'est pas une question d'être un bon coach. Ça n'a plus rien à voir avec tout ça. Un coach, tu vois, par exemple, tu prends mon copain Cyril Diabaté. Il a eu à l'époque Greg Baben, Xavier Foupa-Pocam. Ça a été une génération après.
Ça.
Qui... Bon, après, ça avance. Hein, tu vois. Mais après, il a eu Yves Landu et, par exemple, Kevin Pecci. Mais ils ne sont pas de chez lui à la base non plus.
C'est ça.
C'est pas, ils ne viennent pas de son club, ils viennent d'autres clubs. Et après, ils sont allés chez Cyril, parce que chez Cyril, ils ont trouvé une autre approche, une autre vision et quelque chose qui lui plaisait, dans le striking, etc. Tu vois. Moi, Yves, à l'époque, je le connaissais, il s'entraînait, je ne sais plus où, mais il s'entraînait dans plein de clubs. Tu vois. Et en fait, c'est ça l'histoire du MMA. En fait, moi, je le vois comme un sport. Mais aujourd'hui, ma vision elle a totalement changé. Avant, je voulais vraiment, si j'y arrive à former un mec de A à Z, tant mieux. Il y a pas... Je serais le plus heureux du monde, tu vois, de former un mec de A à Z. Mais quand je vois les... Pour former un mec de A à Z, c'est la loi des 10 000 heures. Donc, je vais devoir passer 10 000 heures à peu près. Et c'est des années, en réalité, qui sont perdues. Pas perdues, tu m'as compris, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le savoir que j'ai accumulé, les machines que j'ai, toute l'expérience que j'ai que j'ai eues grâce à ces années, j'ai fait énormément d'erreurs, etc. Mais elles vont vraiment bénéficier à quelqu'un comme Abdul, par exemple,
D'accord.
qui est déjà, on va dire, au top et qui est aux portes de l'UFC, le mec.
Mais par
Et lui va
exemple, pour
bénéficier
un...
de mon expérience.
Pardon, et par exemple, pour un Abdouragimov, pour toi, quand il vient chez toi, est-ce que là, tu as déjà en tête le travail spécifique que tu vas lui apporter ou justement quelque chose où tu te dis, toi, par rapport à l'accompagnement que tu fais avec lui, tu dis, ça, je vois que ça lui manquait et on va travailler ça ensemble quand il va venir en stage chez moi.
Ah ben, tu vois, Abdul, tu peux lui demander, j'y ai mis des cours de lutte. J'y ai
D'accord.
fait rajouter des cours de sol. J'ai pas fait que de la prépa physique, j'ai pas fait que la diète. J'ai dit, voilà,
D'accord.
ton planning doit ressembler à ça, si tu veux rentrer à l'UFC. J'ai fait une quantification de charge d'entraînement.
D'accord.
Et je sais exactement vers quelle direction il doit aller. En plus, il a des super coachs, donc ça facilite la tâche, et qui sont ouverts d'esprit. Donc automatiquement, tu peux échanger avec eux, et ça, c'est génial. Mais bon, en France, moi, j'ai jamais eu de problème avec personne. J'ai toujours préparé les gens. Jamais, tu vois, après, du moment qu'ils savent que tu fais pour que leur athlète performe, tout le monde est
Bien
content, tu
sûr,
vois.
bien
Donc,
sûr.
voilà. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, bien sûr qu'un individu qui est débutant, qui arrive au FMC, bien sûr que je vais l'aider. Bien sûr que je vais l'y apporter. Mais aujourd'hui, je ne veux plus faire de cours collectifs parce que j'ai donné énormément à des gens. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont se reconnaître. J'ai donné énormément de mon temps, de mon énergie, de mon argent, on va dire. Et du jour au lendemain, le mec veut être bouché, le mec veut être carrossier. Et du jour au lendemain, le mec arrête. Moi, j'ai eu des mecs qui étaient. J'ai des mecs qui étaient. J'en ai un, bon, lui, c'est parce que voilà, il avait des affaires familiales à reprendre, mais il avait 5-0. Il
D'accord.
avait 5 combats, 5 victoires. Tout le monde l'appelait le boxeur du FMC. Et on m'avait proposé déjà des bons combats. C'était à l'époque, il devait combattre au WSOF. Tu sais, c'est bien, c'est le
D'accord,
PFL.
World Series of... Ouais,
Bon,
complètement.
voilà. C'était avant que ce soit le PFL. Bon, après, on a l'adversaire, bon, c'est parfait. Et après, il a arrêté parce qu'il avait des grosses affaires familiales à reprendre.
D'accord.
Et voilà. Et bon, en fait, je me suis retrouvé. Bon, je n'avais plus personne. Romain Perra, pareil, après, il est parti dans un autre club. Ensuite, j'avais Julien Piennoir, tu sais, qui s'entraîne dans les Cachilles, etc. C'était un de mon élève aussi. Je l'ai formé
D'accord.
de A à Z, Julien. Maintenant, il a un club à Tours. Donc, lui, je suis vraiment content parce qu'en plus, il a monté son club et il vit de ce sport. Donc, en fait, lui, il est reparti donc, dans sa région natale. Et en fait, tous les gens sur qui je m'étais impliqué, et surtout les plus doués, eh bien, il y en a un qui est devenu boucher, l'autre est devenu carrossier, l'autre est devenu boulanger, parce qu'en fait, la vie fait que pour être combattant de MMA, ce n'est pas seulement le talent, c'est aussi pouvoir subvenir à tes besoins. Tu sais, après, au bout d'un moment, tu sais, ça ne rapporte pas énormément d'argent, donc c'est vachement, vachement compliqué. C'est pour ça que je vois que beaucoup de combattants ont des carrières en dents de scie, parce qu'effectivement, après, il faut des travails saisonniers. Fait, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. On m'expliquait je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'expliquait des anecdotes sur Fares. Comme quoi, il se levait je sais pas, à 5 h du matin pour prendre son miel ou faire son miel, je ne sais pas trop quoi, et qu'après, il était livreur à côté, fait un truc de fou, quoi. Alors que le mec, déjà, il combattait à haut niveau. Mais tu vois, c'est terrible. Taylor, je sais que pareil, avec Damien, Taylor Lapillus et Damien Lapillus, ils avaient un travail. Déjà, en plus, ils habitent loin, il me semble, ils habitent à Melun ou un
C'est
truc comme
ça.
ça. Donc, ils font des trajets, c'est même pas la peine. Et en plus, ils travaillaient jusqu'à 6 h du matin, ils allaient s'entraîner une première fois, ils repartaient travailler, c'était une histoire de fou. Parce qu'il fallait aussi payer les factures, etc. Donc, en fait, au bout de moment, le collectif, je me suis rendu compte que les gens venaient, ils payaient, et ils venaient 2 fois, 3 fois par semaine, tu vois. Mais cette discussion que j'ai eue, étant donné que j'ai été formateur pendant des années pour les fédérations de sport de combat, j'ai formé au moins 200 ou 300 coachs, tu vois. Et j'interviens sur les diplômes d'État, j'interviens, là, on m'a demandé d'intervenir sur un diplôme de MMA, et j'interviendrai aussi sur la formation de Fernand, c'est la FMC. Pour le côté préparation physique. Et tous les entraîneurs que j'ai côtoyés, à chaque fois, ils me rappellent exactement ce que j'ai vécu, quoi. Les mecs se sont impliqués, ils avaient 50, 100 élèves, et au final, du jour au lendemain, il y a un mec qui vient plus à la salle parce qu'il a trouvé une copine, parce que tu vois. Donc, c'est très, très difficile d'accepter à toi, en tant que passionné, je parle. Donc, maintenant, ce que je fais, je pars du principe que il faut que voir un peu comme ils font le Real Madrid, le Bayern de Munich, Guillaume. C'est le Bayern. Il y a un excellent joueur, ils n'en ont rien à foutre. S'ils l'ont formé, tant mieux. Il y en a qui ont comme le FC Barcelone, etc. Ils ont une optique de formation, tu
C'est
vois.
ça.
C'est leur vision. Maintenant, malheureusement, il y a des joueurs qu'ils n'ont pas pu former, comme Mbappé, par exemple. Ce n'est pas eux qui l'ont formé, tu vois. Mais est-ce que Barcelone ne serait pas intéressé par l'achat d'Mbappé? Bien sûr que oui. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est. Moi, j'ai 37 ans, je ne suis pas vieux. J'ai attaqué l'enseignement à l'âge de 22 ans parce que je me suis rendu compte très vite que j'étais un meilleur entraîneur qu'un meilleur combattant. J'étais un besogneux, j'étais un gros travailleur, donc c'est ce qu'il y a, un peu comme un Didier Deschamps, tu vois. J'étais un gros travailleur, j'étais pas un mec doué. Donc en fait, j'ai compris ce qu'il fallait pour essayer de performer. Si en plus tu avais un peu de talent et un peu de qualité athlétique, ça va être beaucoup plus facile. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu transmettre. Donc maintenant, avec l'expérience, je me suis rendu compte que voilà, je ne veux plus perdre de temps. C'est-à-dire que moi, mes challenges, c'est des garçons comme Basile, qui est un des meilleurs judoka français aujourd'hui, dans les petites catégories. Là, ça me challenge, tu vois. Là, avec Basile, j'ai fait sa prépa. Là, ça me challenge. Il est venu s'entraîner avec nous cet été, au sol. Là, c'est super. Là, oui, c'est des trucs qui me challengent. Aujourd'hui, je fais ça vraiment pour. Je peux, hein, aussi, c'est important de le dire, c'est que je peux ne plus faire de collectif. C'est-à-dire qu'on est le seul club, je pense, aujourd'hui, qui fait que de l'individualisation. Et surtout, les sparring et tout, c'est que sur invitation. Donc, c'est un club qui est fermé. C'est-à-dire que c'est un club qui n'est pas accessible. On ne peut pas venir s'inscrire chez moi. Il faut m'envoyer un message et on voit s'il y a de la place. Tu vois, en fait, ça fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, on n'a jamais aussi bien coaché les gens parce que c'est du bon sens, hein. Ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Et quand après, eh bien, on a besoin de faire de l'opposition, mais aujourd'hui, je fonctionne vraiment comme les Américains, comme on fait en boxe anglaise, comme ils font même, tu sais, maintenant, là où il y a Kamaru Usman, Justin Gaethje et tout, où ce n'est plus des gros clubs, c'est des petits clubs où ils sont en privé, tu vois, les mecs. Et ben, nous, on fait pareil, c'est-à-dire que si demain j'ai Abdul qui vient, par exemple, eh ben, je contacterai d'autres combattants d'autres villes pour qu'ils viennent sparer, comme les sparring days, tu vois, quitte à les rémunérer, par exemple, tu vois. Voilà,
D'accord.
voilà, je veux que ça soit le plus professionnel possible si j'ai un individu qui vient pour se préparer, faire venir, ben, s'il a besoin de travailler la lutte, on a des bons lutteurs aussi à Montpellier, bon, nous on adore la lutte, donc voilà, ça tombe bien, mais on pourrait faire venir d'autres lutteurs pour voir d'autres, tu vois, pour voir un autre type de travail, par exemple au milieu de la cage, au milieu du ring. Si on a besoin d'un très bon boxeur, ben, pourquoi pas appeler Jimmy Vienno, qui est un des meilleurs boxeurs actuellement en pied-point en France, pourquoi pas le faire venir pour faire qu'il fasse de l'opposition en faisant des thèmes, etc. Aujourd'hui, il faut le voir comme ça. C'est le cerveau collectif. Il ne faut pas se fermer d'esprit. En France, on est tous là, on se fait tous, tu sais, on a l'impression qu'ils se font des guéguerres à bidon là. Il faut échanger. C'est-à-dire qu'en fait,
D'accord.
voilà, moi j'ai besoin de l'individu, j'ai besoin d'un mec, tu vois, Fred, là, il devait combattre à la Buddha Warrior contre un Brésilien. On allait faire venir Florent Lucioni, qui a une ceinture noire de Montpellier, qui est très fort au sol, et on allait faire venir, tu vois, j'aurais contacté Ilias Bou, notre copain. Tu vois, pour qu'ils viennent l'aider au sol. Voilà. Je fais venir des gens de l'extérieur en plus. Maintenant, on fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que si on a une problématique, eh bien, pour répondre à cette problématique, on contacte d'autres experts, d'autres visions, et on les fait venir et on s'entraîne en privé. On fait que de la qualité. Un peu comme fait Kamaru Usman, hein, ou comme faisait Georges Saint-Pierre à l'époque.
C'est
Hein.
ça.
C'est ce qu'il faisait, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus qualitatif et on perd moins de mauvaises énergies, mauvaises ondes. Tu sais, les mecs qui se mélangent, tu as des amateurs, des profs, et c'est tout et n'importe quoi. Et voilà, et un des premiers qui avait compris ça, c'était Fernand, parce qu'il faisait déjà les groupes pro. Mais à Paris, tu peux te permettre de faire des groupes pro. Nous, on arrive des fois à faire des groupes pro, entre guillemets, hein.
C'est ça.
On va dire des groupes compétiteurs, parce que ce n'est pas des gens qui en vivent. Mais on arrivait, on était une dizaine. C'est déjà énorme pour le Sud. Maintenant, à Paris, bon, ben oui, effectivement, tu as beaucoup plus de monde. Donc, tu vois, les mecs, c'est plus facile de réunir le monde. Et encore, que tu as vu qu'il y a des guerres de clochers, l'autre ne veut pas s'entraîner avec l'autre. Enfin, tu vois, à Paris, c'est vraiment. C'est un peu partout, c'est pas qu'à Paris. Mais voilà, et la dernière fois, pour rebondir sur ça, à la fois, on me demandait des clubs que je recommandais sur Montpellier. Et j'ai donné des clubs. J'ai donné le nom des
D'accord.
clubs. Et bien, les gens étaient surpris. J'ai reçu chez Romain, je te jure, 100 messages de Parisiens, de Nantais, de tout, qui m'ont dit, ah oh, putain, mais tu fais la pub aux autres clubs, etc. Mais c'est énorme et tout, c'est super cool et tout. Mais c'est normal. Pourquoi je ne ferais pas la pub? Moi, je ne suis pas en concurrence avec personne. Quand tu penses que tu es compétent, Guillaume, quand tu penses que tu es compétent, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai acquis des compétences en faisant énormément d'erreurs et en me formant et en me remettant en question. Eh bien, automatiquement, après, ben, tu as confiance en ton travail. Et tu vois pas le mal envers les autres. Je vais pas jalouser les autres. Quand je peux leur donner de la force, eh bien, je leur rétribue. Voilà, grosso modo. Voilà ma vision aujourd'hui.
Et toi, justement, là, comme tu te ressens sur quelque chose comme ça, où tu es vraiment dans la collaboration avec les autres clubs, que les athlètes viennent en stage avec toi, est-ce que tu as déjà eu, pour l'instant, tu vois, des avant-après Clément Marcoux, c'était assez spectaculaire, le moment entre l'athlète arrive avec toi et ensuite vous avez fait la collaboration, et clairement, lui, soit dans ses performances, soit physiquement, il y a eu une transformation.
Et Abdoul,
D'accord?
c'est clair. Abdul, j'ai fait une photo avant-après. C'est incroyable. Et depuis qu'il est avec nous, ben, il a roulé sur ses mains les adversaires, quoi. Il m'a dit, je me sens vraiment plus puissant. Il peut en témoigner. Hein. C'est les messages, je les ai, tous les messages qu'il m'envoie. Et il a fait une photo avant-après. Je l'avais mis sur Internet. Et c'est impressionnant, quoi. Il était monté. Déjà, Abdul, quand il m'a contacté, il était vraiment pas bien. Mm-hmm. Il sortait de cette défaite, tu sais. Mm-hmm. Mais il n'était pas bien psychologiquement. Et c'est un combat qu'il n'aurait jamais dû faire, selon moi. Mais bon, après, c'est des choix. Chacun fait ses choix. C'est la vie. Après, c'est facile à parler après. Hein. On ne sait pas. On n'a pas les tenants ni les aboutissants. Mm-hmm. Mais Abdul, il faut savoir qu'il faisait 80 kilos quand il m'a contacté. Il combattait 77. C'est une blague. Mm-hmm. C'est une blague.
Quand je lui ai dit, donc pour toi, il faut être beaucoup plus lourd en poids de forme quand on est en 70.
Ah, mais oui. Non, mais pas 77, quoi. Fait, tu peux pas, quoi. Tu peux pas faire que 3 kilos de plus. À haut niveau, c'est plus possible.
D'accord.
Et en fait, quand il m'a contacté, c'est parce qu'il avait vu une vidéo, bon, bref. Et il m'a demandé d'être son préparateur. Et quand je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, Abdul, t'es un phénomène. Je veux savoir c'est comment ton entraînement. Qu'est-ce qui fait que tu es un phénomène comme ça? Que tu soumets tout le monde, que tu as soumis Reda, que c'est un monstre. Comment tu fais pour gagner en absolu en jiu-jitsu en France, des mecs qui s'entraînent 3 fois par jour dans des banlieues parisiennes comme des Lyons, et que toi tu t'entraînes à Nantes, même si tes sparring sont forts, mais c'est quoi ton secret? Et là, le mec il m'a dit, mais moi je sais pas, je m'entraîne 3 fois par semaine au sol. Non mais là, j'ai dit, c'est pas possible, il se fout de ma gueule, le mec. Et j'ai dit, mais la lutte, t'en fais où? Il m'a dit, ouais, bah, pareil, 2-3 fois par semaine et un peu de boxe. Non mais attends, Guillaume, le mec s'entraînait du lundi au vendredi, quoi, comme un loisir. Et là, j'ai dit, attends, mais Abdul, ça veut dire qu'en fait, si tu t'entraînes réellement, tu vas être... Bon, il s'entraînait dur, sûrement. Hein,
oui, bien sûr.
Tu le dis avec ses mots. Abdul, pour lui, pas s'entraîner, c'est peut-être s'entraîner beaucoup pour d'autres. Mmh. Mais après, pareil, il mangeait n'importe quoi. Enfin, tu le vois déjà, même encore, là, il se relâche en ce moment. Il fait ses lazy dîners, ses lazy hamburgers, tu sais, dans ses stories.
Et d'ailleurs, quand il y a ça, je me permets de te couper. Est-ce que quand tu as ça, tu lui dis faut que tu arrêtes tout de suite et tu le
Ouais, non, mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps, j'ai dit t'arrêtes tes conneries, quoi. Mais arrête, bordel, tu fais que bouffer toute la journée. Bon, comme il n'est pas très lourd, j'y pardonne, tu vois, il n'est pas très très lourd en ce moment. Donc voilà. Et c'était surtout après le ramadan et tout, donc il avait besoin un peu de tout ça. Mais en fait, et après, bon, mais là, il est redevenu. De coup, donc, alors je te disais, il était à 80 kilos et on l'a fait monter à 88 kilos.
D'accord.
Là, ça devait dire, ah ouais, et 88 kilos, solide, quoi. Il y a d'ailleurs une photo où il est torse nu avec sa grosse barbe, là, qui m'a pris, m'a dit, coach, je suis à 88 kilos. Et là, je dis, ah ouais, là, maintenant, à 88 kilos, s'il redescend à 77 et qu'il remonte à 86, 87, déjà qu'il était très con. Parce que lui, il a un style qui demande énormément d'endurance de force, mais qui dit endurance de force dit aussi le mot force. Et Khabib n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait à 77 kilos, ce qu'il a fait à 70 kilos. Ça lui aurait coûté beaucoup trop d'énergie d'essayer d'amener au sol un mec comme Kamaru Usman, par exemple, qui te font gaspiller une énergie considérable tellement ils sont physiques. De toute façon, tu l'as bien vu contre Gleison Thibault, qui était énorme, il n'a rien pu faire. Parce que le mec était très très fort en lutte, déjà. Et en plus de ça, il était extrêmement physique, extrêmement lourd. Donc là, quand il est tombé sur un mec qui faisait à peu près son poids le jour du combat, même peut-être plus lourd, et qu'en plus c'était un gros lutteur défensif, mais ça a été très très compliqué. D'ailleurs, il s'est fait amener 2 fois au sol sur ce combat. Ben. Mais pourquoi? Parce qu'en face de lui, il y avait un mec qui était énorme, et en plus de ça, qui était très bon en lutte. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Abdoub, il a besoin de ce poids. Il ne peut pas affronter. Il va passer. Il est passé. Il a affronté un Brésilien qui était chargé comme je ne sais pas quoi au Brave, qui est super fort, celui-là qui avait battu Karma Lamoussou. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Complètement.
Eh bien, il est super fort. Il est énorme, le mec. Il y a un vendredi, il y avait 2 catégories d'écart. Mmh. Abdoub l'a battu. Mais au bout d'un moment, ça passe plus. Ça passe plus. Guillaume, arrivé à un certain niveau, tu tapes des Stéphane Thompson, tu tapes des mecs comme ça, ça ne peut plus passer. Les mecs sont trop, déjà, ils sont énormes. Et en plus de ça, ils sont super forts. Donc, à technique égale, il faut au moins que tu aies le physique de ton côté. Tu vois?
C'est ça.
Parce qu'il est gentil, Covington, il dit qu'il ne cut pas beaucoup, mais Covington, il fait 90 kilos. Mmh. Attends, il faut arrêter. Kamaru Usman, tu as vu comme il est ou quoi? C'est un titan.
Et vous deux, vous n'avez jamais eu la discussion de vous dire peut-être, parce que moi, c'est ce qu'on s'était posé la question avec Ross, de se dire, c'était avant qu'il commence la collaboration avec toi, Abdul, c'était de se dire pourquoi pas aller tout simplement en fait en lightweight aussi.
Non, mais il ira à 70 kilos, Abdul, hein, je te le dis. Mmh. Non. Ah, alors, je te le dis maintenant, j'ai déjà dit, Abdul, je l'ai dit à Fernand, ça. Donc, c'est pour ça que je peux le dire. Abdul peut être champion de l'UFC. Moi, je te le certifie. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a 2 mecs en France que je vois devenir champion de l'UFC, Cyril Gane et Abdul, que je vois aller au bout. Je ne dis pas que les autres sont extrêmement forts. Oui, je te parle d'aller au bout des choses.
Ouais.
Abdul, à 77, il ne sera jamais champion de l'UFC. C'est impossible.
Oh, ok, d'accord. Parce que je
joue une
dimension physique.
Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu peux pas. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tu sais, quand tu analyses quelque chose, il faut être le plus objectif possible.
Ouais.
Un jour, je vais te dire un truc. Très important que je ne dis pas en général dans mes lives et tout, mais là, je vais le dire. Un jour, il y a Elias Bou, il me dit, Taylor, c'est mon frère. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, c'est un ami, c'est mon véritable ami. Chaque fois que je vais à Paris, je mange avec lui, on parle beaucoup de MMA, etc. Un jour, Elias Bou, il me dit, Clément, je pense que Taylor va devenir champion de l'UFC.
D'accord.
J'ai dit, ça va être dur. À l'époque, il était à l'UFC, Taylor. Il venait de battre Sasaki. Donc, il avait deux combats, deux victoires. Et je lui dis, ça va être dur. Le problème, ce n'est pas le niveau de Taylor. Le problème, ce n'est pas le niveau d'Abdoul. Le problème, c'est le niveau des autres. C'est-à-dire que nous, on a tendance à regarder que nous-mêmes. On se dit, ah, mais nous, notre combattant, il est extrêmement fort. Mais on ne regarde pas les autres, Guillaume. C'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'on s'imagine que les autres, eux, ne le sont pas, peut-être. Tu comprends? Et le problème, après, de la catégorie à Taylor, là, je parle de la catégorie à Taylor.
Bantamweight.
Ouais. Tu te tapes des mecs qui sont tous plus forts les uns que les autres.
C'est ça.
C'est-à-dire que non seulement il te faut une part de chance pour passer au bon moment, au bon endroit, en plus, lui, Taylor, il a le talent, on le sait. Il n'a jamais été mis KO, jamais été soumis, etc. Mais après, quand tu vas te taper les Sean O'Malley, quand tu vas te taper les Sandhagen, les Frankie Edgar,
top 10, Rob Font.
Franchement, c'est n'importe quoi ce top 10. Cody Garbrandt et tout. Non, mais c'est d'une Pedro Munoz et compagnie, Rafael Assunção et tout. C'est n'importe quoi. Ouais. Tu peux perdre tous les matchs. Il n'y a pas un match que tu ne peux pas perdre.
C'est
confronté. Et c'est ça le problème. Et je disais, le problème, ce n'est plus le niveau du mec. Le problème, c'est le niveau des autres. Et Abdul, arrivé quand tu vas commencer à te taper. Mais là, tu arrives, déjà, il faut l'attraper, Stephen Thompson. Il y en a plein qui ont essayé de l'attraper. Tu vas commencer à te taper les Stephen Thompson. Tu vas commencer à te taper Léon Edwards. Tu vas commencer à te taper, comment il s'appelle, même Ned Diaz ou Gilbert Burns et compagnie. Oh, déjà, il faut l'amener au sol à Gilbert Burns. Et tu vas faire quoi à Gilbert Burns? Tu vas y passer la garde? Tu vas lui mettre un étranglement?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh les gars, le mec est champion du monde, il a fait la DCC. Le mec, c'est un monstre. Tu parles plus. Tu vas faire quoi, Damien Maia? Tu vas faire quoi? Tu vas mettre un bras tête? Mais non, soyons sérieux deux minutes. Les mecs sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts. Donc, là où moi, je pense qu'il aurait un avantage considérable, et que quand je vois les styles d'adversaires, c'est en 70 pour Abdul. Je le verrais bien passer des mecs comme Gage, je le verrais bien passer des mecs comme Poirier. Parce que c'est des plus petits gabarits que lui, déjà. Tu vois? Et il a la lutte pour les embêter. Et il a le grappling, parce qu'il est très, très fort en grappling. On ne se rend pas compte. Il a fait taper toutes les back belts, pratiquement. Il a roulé sur tout le monde. Il a roulé même sur des mecs, ça, les gens ne le savent pas. Mais au Naga, il a battu des mecs qui étaient finalistes au qualif' ADCC Europe, par exemple. Il leur a roulé dessus. Abdul, si demain tu me dis qu'il a gagné les qualifs ADCC Europe à moins de 77, je ne serais pas étonné. Tu vois, il a le niveau, ce mec, pour aller loin. Mais il a le niveau à moins de 70, parce que en plus, la catégorie s'y prête. La catégorie des 77, les Covington, c'est trop fort en lutte. Covington, Kamaru Usman et toute la clique, là, c'est des monstres en lutte, Guillaume. C'est trop compliqué de les amener au sol. C'est pour ça que, d'ailleurs, Khabib est très intelligent. Tu comprends bien que s'il serait sûr de la victoire, il serait monté, il aurait pris la ceinture, et voilà, on n'en parle plus. C'est aussi facile que ce qu'on dit là. Tu vois, mais non, mais bien sûr qu'il est intelligent, Khabib. S'il y avait une chose que Khabib fait, c'est son intelligence. Quand tu vois l'intensité que Covington arrive à mettre sur 5 fois 5 minutes, c'est incroyable. Il a un cardio de malade. Comme Kamaru Usman, c'est pareil. Les mecs, ils te font 5 fois 5, comme toi, tu fais 2 fois 5 minutes. Non. Tu comprends bien que Covington, à l'adversaire d'Abdul, contre qui il a perdu au Brave, qui est très fort d'ailleurs, mais je ne sais plus comment il s'appelle, Mais il roule dessus, Covington. Il n'y a pas de match. Il le panne en synchrone, il le jette par terre, il le tabasse, il le jette par terre, il le tabasse. Le mec,
Al-Salaoui.
Voilà, non, mais il ne fera rien. Il ne peut rien faire contre Covington ou Kamaru Usman, c'est une boucherie. Tu vois, non, mais arrive un moment. Mais pourquoi? Parce que les mecs, ils ont non seulement le cardio, ils ont le physique, ils ont la technique, ils ont tout. Et lui, Abdoul, il ne manque pas de technique, il ne manque pas de. Mais juste qu'il ne peut pas arriver à que plus 3 kilos. C'est pas ça. À l'UFC, je te parle. Mmh. Il pourrait y arriver dans d'autres événements, dans d'autres organisations, mais à l'UFC, attends, regarde le mec avec qui tu as parlé d'un mec hier avec Fernand, l'Ukrainien du Bellator, là.
Oui, complètement.
Ah, Amazov, ouais. Il faut arrêter les bêtises. Il est énorme, le mec. non, mais voilà. Donc, non, moi, Abdoul, quand j'en parle comme un 70 kilos.
D'accord. Là, et donc là, toi, les 88 kilos auxquels il est aujourd'hui, enfin, on va dire en point de forme quand il n'est pas en mode lazy hamburger, quoi, c'est quelque chose dans l'optique aussi de le préparer à la descente en 70 kilos, c'est ça?
Voilà. En fait, il fallait qu'on voie aussi comment réagissait son physique.
D'accord.
Là, j'étais surpris qu'il prenne autant de poids. D'accord. Donc, oui. Après, il faudra qu'il stabilise à un poids intermédiaire. Mmh. Mais bon, Khabib faisait 90 kilos hors combat. Hein, donc, je ne suis pas étonné qu'il arrive à descendre 70 kilos. Mmh. Je l'ai fait moi, alors que je ne suis pas un champion. Je suis passé de 95 kilos à 72 kilos.
Mmh.
En 3 ou 4 mois pour préparer l'IBJJF, les Worlds. Mmh. Et je ne pouvais pas cutter. J'aurais pu cutter. Parce que tu sais, tu te pèses, tu combats.
Ouais.
Tu peux pas, tu sais, t'as pas de temps pour te recharger. Mais j'aurais pu descendre plus bas. Donc, si moi j'y arrive, alors que j'ai un travail, alors que je gère des choses, etc., quelqu'un qui fait que ça, il a la possibilité de le faire également. Il n'y a pas de problème. J'ai vu Mickaël Lebout qui s'entraîne avec nous également. Mickaël, quand il était venu à la salle, il était à 88 kilos. Quand il a fait la ceinture du 1 mois, il a combattu 70. Donc, c'est possible. Maintenant, à bout, je ne demanderai pas d'aller être aussi lourd. Je pense qu'à 82, 83 à l'année, c'est très bien pour lui. Mais à 70 kilos, c'est qu'il faut qu'il tue. Franchement, je pense qu'il faudrait vraiment. Je ne vois pas beaucoup de mecs, en tout cas à l'UFC. Je ne vois vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de mecs pouvoir l'inquiéter. Mmh. Mais à 70 kilos, je parle. Hein. Et je pense que ça serait très difficile pour les mecs.
Et toi, est-ce que tu accompagnes aussi justement les combattants? Donc là, on parle énormément justement du fait d'avoir une vraie masse qui se développe. Mais est-ce que tu les accompagnes aussi dans le processus de cutting? Parce que c'est vrai que ça, c'est important. Et tu vois, il y a certaines personnes qui disent « Ouais, on n'a pas envie que les mecs cutent trop. » Et toi, pour toi, ça fait vraiment partie intégrante du sport.
Alors, je les accompagne. Tu vois, Abdoul, je l'accompagnais. Mais d'accord. On y a fait un truc basique. Parce qu'Abdoul ne cutait pas.
D'accord.
Okay. Donc, on ne pouvait pas prendre de risque.
D'accord.
Surtout que je ne suis pas avec lui.
Okay.
Je ne suis pas avec lui le jour de la pesée, etc. Donc, il y a eu un combat, je crois, que je devais aller avec lui. Je ne sais plus c'est lequel, mais voilà. Mais quand je te parle d'Abdoul, j'englobe tout le monde. Hein. Abdoul, c'est juste parce que ça parle aux gens. Mais après, quand je parle du MMA en France, voilà, je parle d'Abdoul parce que c'est un des meilleurs, comme je pourrais parler de Saladin, comme je pourrais parler de Taylor, comme je pourrais parler de Mansour Barnaoui, etc. Je fais un ensemble de tout le monde. Maintenant, c'est ça, Abdoul, c'est parce que j'en parle, parce que je le prépare et que je le connais. Mais c'est juste pour expliquer que la complexité de ce sport à haut niveau, il y a tellement de critères qui vont rentrer en compte, et plus ça va aller, plus ça va l'être. Que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut, on a plus le choix, quoi. Il faut vraiment être le plus professionnel possible, et que plus ça va aller, plus ça va serrer les vis, quoi. Le niveau, on le voit, il s'élève. C'est pour ça que moi, et là, je rebondis sur un autre sujet qui va faire débat. Moi, je suis pas spécialement d'accord quand j'entends dire que la France, on a du potentiel pour le MMA. Moi, je suis pas trop d'accord. J'entends dire ça, mais alors, qu'est-ce qu'ils devraient dire les Américains, les Brésiliens, les Russes et compagnie, alors?
C'est ça.
Attends, les mecs, mais on a toujours cette tendance à nous regarder nous-mêmes. Oui, on a des mecs bien. Oui, on a des mecs bien. Mais qu'est-ce qu'ils devraient dire, Guillaume, les Australiens, alors, qu'ils ont un champion de l'UFC et un mec qui est challenger numéro 1 avec Whittaker et l'autre, le petit 66 kilos, Alexander.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils devraient dire, ces mecs-là? Attends, les Australiens, ils font pas du MMA depuis plus longtemps que nous. Hein. Je suis désolé. Hein. Ils n'ont pas de gros événements chez eux non plus. Hein. Ils n'ont pas de ligue comme l'UFC et tout. Non, non. Il faut arrêter au bout d'un moment. Attends, il y a un Italien qui a fait le titre, là, contre Adesanya, Vettori.
Vettori, donc, complètement.
Et qu'est-ce qu'ils doivent dire, les Italiens, les Français? Ils doivent dire quoi? Tu crois que les Italiens disent « Oh, attention, j'affronte un Français ». Non, je suis désolé. Ils ne disent pas « Oh, attention, j'affronte un Français ». Ils sont connus pour être des phénomènes. Non, mais je suis désolé. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Voilà. Moi, je sais que nos Français, ils ont les moyens de faire quelque chose. Maintenant, arrivé un moment, il faut qu'on soit lucide, les coachs, tous les entraîneurs en France, et qu'on soit conscient du niveau de nos athlètes. Si on n'est pas conscient du niveau de nos athlètes, on va dans le mur. Si on pense qu'on est l'équivalent de l'équipe de foot de France, non, on se trompe. On n'est pas l'équivalent de l'équipe de foot de France. Mmh. Oui, on a des bons combattants. Oui, on a des mecs qui sont même exceptionnels. Mais je te dis, aujourd'hui, le seul mec qui est positionné en France pour faire quelque chose, c'est Cyril. Mmh. C'est le seul qui est aux portes de faire quelque chose, d'être champion de l'UFC, tout simplement. Il est quatrième. On n'a jamais eu un Français, avec Francis, bien sûr. Hein. On a Francis aussi, si on parle du principe que Francis est français. Mais voilà, on les a un poids lourd, quoi. Et après, pardon. Et on a Marion, c'est ça, hein, la fille. Hein,
Manon Chaud.
Extrêmement fort.
Manon
Chaud. Je pense qu'elle ira au bout du truc. Je pense qu'elle peut aller chercher la ceinture. En plus, son coach, je le connais très bien, Aldric. C'est quelqu'un de très intelligent. Je pense qu'elle peut aller au bout du truc. Je ne dis pas qu'elle va être championne, mais elle va aller au bout du truc. Elle va aller au bout de l'histoire. Après, peut-être qu'elle perdra, qu'elle gagnera, peu importe. Parce qu'après, à haut niveau, tout le monde est fort.
C'est ça, voilà, exactement.
Tout le monde est fort, on est d'accord.
Mais déjà, après, avoir le combat pour le titre ou être top 3 mondial, c'est quand même énorme. C'est vrai que...
Voilà, mais on en revient encore à une seconde problématique. C'est que c'est dans deux, et tu remarqueras, et ça se dit beaucoup en off, mais ça ne se dit pas beaucoup en on, c'est dans deux catégories, je ne dirais pas qu'elles sont plus faciles, mais les poids lourds et les femmes, c'est quand même un peu plus facile que les moins de 61 kg de chez Taylor, par exemple.
Complètement.
Ou les moins de 66 de Saladine.
Complètement.
La sélection est beaucoup plus, un peu plus facile, on va dire, déjà, pour y accéder. Ça, c'est clair et net. Après, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas le mérite. Hein. Mais au contraire, c'est exactement la même chose après. Quand tu y es, par contre, quand tu arrives à la ceinture, tu n'as que des extraterrestres. Dès que tu es au top 5, de toute manière, tu n'as que des. Peu importe les catégories, hein. Il n'y a plus de sous-catégories après, c'est que des monstres. Mais tu m'as compris, pour accéder, on va dire, au haut niveau, c'est plus facile par ces voies-là que, par exemple, les voies classiques pour aller à moins de 84, moins de 77, moins de 66, moins de 61. Waouh! Il va falloir vraiment que tu sois fort, quoi, pour te glisser dans le top 5, je parle.
C'est ça.
Il va vraiment, vraiment, vraiment te falloir que tu sois très, très fort. Et en plus que tu aies un facteur chance aussi qui t'accompagne, que tu ne prennes pas de mauvais coups, que tu ne prennes pas de... Tu vois, c'est ça qui la complexité. Donc, moi, je te dis, je me mets toujours à la place des autres. Et je le fais pour le coaching, je le fais pour tout. C'est-à-dire que je me dis, voilà, j'ai un athlète, je le prépare. Qu'est-ce que le coin adverse va faire pour me battre? Ou je prépare Guillaume ou Russ. Si j'ai des détracteurs, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme argument pour contrer mon entraînement, tu vois?
D'accord. Voilà,
je me mets toujours, je suis toujours un avocat qui m'attaque en fait, tout le temps, mais surtout ce que je fais dans ma vie. Donc au moins j'essaie toujours de trouver la solution avant même que le problème se présente.
D'accord.
Et en fait, en MMA, je fais pareil. C'est-à-dire que je me dis, voilà, nous les Français, on a un gros potentiel parce qu'on a un passif de pieds-poings, etc., de judo et tout. Mais bon, moi je suis désolé quand je vois les autres pays à côté de nous. Et voilà. Et là où j'ai pris une claque, je te dis franchement, un combat qui m'a fait réaliser ça, c'est, tu sais, Jean Ndoye, qui est extrêmement fort.
Okay.
Jean Ndoye, il est extrêmement fort, je te promets, les gens ne se rendent pas compte.
Complètement.
Et Jean, c'est un ami, hein. Je le connais depuis des années. Okay. Et bien, il a affronté un Irlandais au Bellator.
Okay.
Il me semble, oui, c'est au Bellator.
Ouais,
un mec, il avait
qu'il a perdu,
un seul combat.
Ouais.
Ouais, il avait un combat. Le mec, un petit Irlandais de chez Cavana, super fort. Le mec, un combat, champion du monde amateur, il me semble. Et le mec, je te dis franchement, incroyable. Il a fait du Khabib, quoi, à Jean. Et je me suis dit, contre Jean, ça ne marchera jamais. Il va se crambler, il va se relever, il va le tabasser. Mais le mec, il a déroulé. Trois rounds. Magnifique. Le mec, inconnu au bataillon. Le mec, il se permet de prendre Jean qui avait genre 10-1. Il avait un combat, le mec.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il doit... Alors, qu'est-ce qu'on doit dire de ce gars-là? Qui est jeune, c'est son deuxième combat, il se tape notre meilleur Français presque à son deuxième match, quoi. Professionnel, mais c'est un truc de fou, quoi. T'imagines, nous les Français, on aurait un mec comme ça qui débarque, il prend un mec au deuxième combat, il prend un mec au Bellator, hein, le mec. Hein. Il débarque, pop, il prend un Anglais qui a 10-1, que nous on dit que c'est un tueur l'Anglais, il le prend, il y roule dessus, c'est trois rounds. Tu vas dire quoi, toi? Tu vas dire, attends, notre Français, c'est un phénomène, hein. C'est le nouveau Khabib, tu vois. Ben eux, les Irlandais, ben, c'est pas plus. Ouais, il est pas mal. Ouais, il est bien. Attends, c'est quand même ouf, tu vois, au bout d'un moment. Et en fait, moi, je regarde toujours les autres. Je dis toujours, qu'est-ce qui se passe chez les autres? Pourquoi? Et en moins, après, j'essaie d'identifier pourquoi ils sont un peu mieux que nous. Moi, je pense que l'explication d'Irlande, en partie, c'est grâce à Conor. Parce que si demain, on a un Conor McGregor en France, ben, automatiquement, ça va exploser le niveau, quoi. Parce que tu vas avoir un mec qui vit. Et je pense que c'est ce qui a fait du bien à Fernand, c'est Francis. Tu vois, Taylor, Michael et tout, qui étaient tous à l'UFC, ils me l'avaient dit, ça avait fait élever le niveau de dingue de ma factory.
C'est ça.
Ce qui est logique, hein, parce qu'en fait, tu vois que c'est possible. Et de savoir que c'est possible, ben c'est extraordinaire pour un combattant. C'est extraordinaire.
C'est clair, c'est clair. Et justement, là, toi, par rapport à ça, donc là, quand il y a le paysage du MMA français, là, on a parlé bien évidemment d'Abdul, qui est considéré, je pense, par tout le monde en France comme le meilleur lightweight, welterweight, pardon. Et au niveau des lightweight, tu nous avais parlé, donc, quand on était venu te voir, en off, bien évidemment, de Mansour Barnaoui, qui t'avait, bah, qui est pour moi le meilleur lightweight français, qui pour toi t'avait aussi particulièrement impressionné. C'est vrai que pour moi, c'est l'autre. On va dire, il n'est pas à l'UFC, mais c'est celui où je pense vraiment où il y a un truc à jouer. Je ne sais pas s'il sera champion, tu vois, mais je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire dans cette catégorie lightweight.
Et moi, je vais revenir sur Mansour. Je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais moi, Mansour, personnellement, hein, c'est la personne qui m'a le plus impressionné, avec qui je me suis entraîné. Mais avec qui je me suis entraîné de partout dans le monde. Je me suis entraîné avec Cyborg, je me suis entraîné avec des mecs qui sont champions du monde qui ont gagné la DCC. Ils ne m'ont pas autant impressionné que Mansour. Enfin, c'est des mecs, voilà. Après, ils n'étaient pas à fond. Mais peu importe ça, je parle de ça, c'est l'entraînement. Je donne mon opinion, là. Mansour, il est... Je pense que c'est un mec, voilà, il a des qualités qui sont hors du commun. Tu vois, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et en plus de ça, il a un menton incroyable et un mental incroyable. C'est-à-dire qu'il ne tape pas. Tu peux quasiment pas le mettre KO. Et tout ça, mis bout au bout, fait qu'il est terrifiant, quoi. Ça en fait un adversaire terrifiant. Je pense pas qu'il devienne champion de l'UFC, mais pas parce qu'il n'a pas le niveau. C'est pas une question de niveau avec Mansour. Mansour, je pense qu'il aurait jamais dû perdre un seul combat. Les combats qu'il a perdus, c'est des erreurs qu'il a... Après, je te dis... Je te dis ça, mais moi, je suis sur mon canapé, mais c'est des erreurs seulement stratégiques de Mansour. Oui. C'est des choix à des moments donnés dans le combat qu'il a fait. Contre Gamrot, c'est des choix. Il fait un mauvais choix à un moment donné. Ça lui coûte le match, selon moi. Contre Bushinger, pour moi, il fait un mauvais choix de le coller à un moment et il prend une projection de judo. Et bon, il m'a dit que le cutting avait été difficile, etc. Bon, mais contre Kevin Lee, pareil, des fois, contre Islam Makhachev, moi, je le vois gagner. Mais bon, allez, même si on va dire qu'il y a un match nul, ben pareil, c'est contre Islam, c'est un match qu'il doit prendre. C'est qu'il a vraiment voulu, il a voulu le terminer, c'est précipité. En fait, Mansour, c'est plus qu'il sait qu'il peut terminer les mecs. Donc, en fait, des fois, ça lui fait faire des choix, mais malheureusement, qui lui ont coûté la victoire. Maintenant, Mansour, il est un peu comme, il a un peu ce truc à Taylor, c'est que tous les mecs qu'ils ont battus, que ce soit Taylor et Mansour, ils leur ont pris un round. C'est-à-dire qu'ils les ont battus à un moment donné dans le match, tu vois. Quand Pérez a battu Taylor, ben, il a pris un monodonte, tu vois, au deuxième round, par exemple. Taylor a failli le terminer. Pareil, Mansour a mis en difficulté Gamrot. Tu vois, il a mis en difficulté Bushinger. Il a mis en difficulté Islam. Il s'est retrouvé dans son dos. Il a mis en difficulté Kevin Lee. Il s'est retrouvé dans son dos également. Donc, Mansour, il a cette capacité. Comme je dis, n'importe qui affrontera Mansour, même si ça aurait été Khabib, en 5x5, déjà, Khabib, je vais peut-être choquer les gens, mais je ne vois pas Khabib le terminer, c'est quasiment impossible. Il y a trop de cardio, trop physique, trop. Les gens ne se rendent pas compte, trop de mental, trop de tout.
Non, c'est impressionnant.
Il faut que voir, vous n'avez qu'à voir le combat d'Islam. L'Islam, c'est un genre de Khabib un peu à moins bon, à moins agressif, peut-être moins stratégique, c'est clair. Mais Islam, il n'arrivait même plus à mettre son t-shirt. Mansour, il aurait pu faire 10 rounds derrière. Si c'est en 5 rounds, Mansour, il met sur une civière. À Islam, il n'y a pas de match si c'est un synchrone. Et d'ailleurs, Islam ne la refrontera jamais, c'est sûr et certain. Parce que d'ailleurs, Khabib a partagé la vidéo de leur combat en disant que ça avait été le combat le plus dur d'Islam. Donc voilà, c'est pas nous qu'on le dit, c'est pas toi et moi, hein. C'est carrément eux. Maintenant, comme je te dis, Mansour, je pense que c'est un peu ce côté stratégique qui lui manquerait pour battre des mecs comme Poirier, peut-être, ou des mecs. Je pense que ces mecs-là, tu vois, Poirier, on a vu qu'on ne pensait pas qu'il allait lutter Max Holloway, mais il a lutté Max Holloway, tu vois. En fait, ces mecs, ils ont quand même plusieurs cordes à leur arc. Mansour les a. Il a plusieurs cordes, il est fort partout. Mais Mansour, je sais comme il voudrait vraiment le terminer à Poirier, tu vois. Il voudrait le terminer debout. Alors que peut-être qu'il pourrait l'amener au sol et le bouger au sol, mais parce qu'il est comme ça, parce qu'il aime le spectacle, parce qu'il aime tout ça, tu vois. Et c'est pas une question de niveau. Je suis sûr qu'à l'entraînement, Mansour et Tournant et Poirier, ils ont le même niveau. Fait, tu vois, il n'y aura pas un qui prendra vraiment l'ascendant. Mais après, en combat, il y a une grosse partie de stratégie, de tactique qui rentre en compte. Et c'est peut-être de ce côté-là que Mansour devrait bosser le plus. Et je suis sûr et certain que, de toute façon, n'importe qui, Et j'espère vraiment qu'il va signer. Et j'espère qu'il ne va pas signer dans longtemps parce que ça commence à faire long, il commence à vieillir. Et je ne veux pas qu'on voie un Mansour diminuer. Ça me ferait vraiment mal parce que j'ai énormément d'estime pour lui et ses entraîneurs et tout, qui sont des super gars. Mais surtout, il mérite d'être vu par le monde entier, tu vois, avec le potentiel qu'il a. Et donc, j'aimerais vraiment qu'il soit encore à son top quand il rentrera à l'UFC. Et je sais qu'il va, je sais réellement qu'il va vraiment, ça va être très compliqué. N'importe qui va lui mettre en face, il ne va pas avoir un combat facile. Tu peux lui mettre directement un top 10, ça va être compliqué pour le mec. Même s'il le bat, hein. Je ne dis pas que le mec ne va pas le battre. Hein. Mmh. Le mec va lui faire un match de lutte, tu vois, et il va le coincer, il va faire de l'anti-jeu, etc. Mais je sais qu'il va souffrir le mec, quoi. Il va devoir tout donner pour battre Mansour. Il va sortir, il sera mort. Quoi qu'il arrive, il sera mort. Parce que c'est un monstre, ce gars-là. Il a des capacités que je n'ai... J'ai rarement vu ça.
Quoi par exemple ?
Alors, en fait, déjà, il a un cardio, je n'ai jamais vu le même. Toute ma vie, je n'ai jamais vu un mec comme ça. Il est infatigable, tout simplement. Il est venu le jour où on travaillait la lutte MMA. Mansour, il est longiligne. Quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, oh, plus cher, il va galérer, lui. Il va galérer, tu vois, il est musclé, mais bon, quand même, et tout. J'ai dit, ah, il va galérer. Mais il ne galère rien du tout. Et déjà, il a la force d'un titan. On ne dirait pas quand tu le vois comme ça. Il a la force, c'est un ours. Il a une poigne, c'est des menottes. Et il a un cardio de malade. Voilà, c'est tout. Et il a un mental, on le sait. Hein. Tu le prends en étranglement, déjà, oublie. Oublie jusqu'à la fin de ta vie. Bushinger l'avait en guillotine, l'autre l'avait en bras-tête. Tu ne le feras jamais taper. C'est impossible. Il ne tape pas. Il ne sait pas ce que c'est d'abandonner. Donc, et en plus, il encaisse. Et ça, c'est pareil. C'est des facteurs comme Max Holloway, là. Ça, c'est une part de chance de pouvoir encaisser ce qu'encaisse Max Holloway. Et à l'UFC, si tu n'encaisses pas, c'est, de toute façon, si tu n'encaisses pas et que tu ne frappes pas, mais c'est mort, quoi. C'est même si tu es talentueux, c'est mort. Et même si tu frappes, mais que tu n'encaisses pas, comme Cody Garbrandt, eh bien oui, tu vas aller au bout une fois ou deux, mais un jour, tu vas le payer. C'est et c'est ça le gros problème qu'on va retrouver, c'est que Mansour, lui, il a toutes ses capacités, il a toutes ses qualités-là. Il lui faudrait juste un petit peu de cette petite stratégie tactique qu'il arrivera à mettre en place, mais je pense qu'il le ferait pour un enjeu tel qu'une ceinture. Je pense qu'il mettrait de l'eau dans son vin, tu vois, et qu'il se dirait, voilà, je vais être stratégique sur ce combat. Et parce qu'il a déjà été stratégique, hein. Mansour, ne rêvons pas, il a déjà été stratégique. Mais comment ça s'appelle ? Mais il le faudrait un peu plus, parce qu'à l'UFC, quand même, ils sont vachement, t'as vu, ils jouent beaucoup avec les juges, quand même, les mecs. Ils peuvent te gâcher un combat en rigolant, quoi.
Complètement. Et pour toi, justement, ces capacités-là, que ce soit d'encaisser, ou comme tu dis, justement, il a la force d'un ours, est-ce que c'est quelque chose qui peuvent s'enseigner, ou avec toi, on est vraiment sur le côté, le mec est né comme ça, finalement, et c'est soit t'as la chance d'avoir ça, soit tu ne l'as pas, et t'as beau faire tout le travail que tu veux, ça va être compliqué.
Ah, un mec comme Mansour, c'est génétique.
D'accord.
J'ai parlé avec lui d'entraînement qu'il faisait. Il faisait un peu de traction, un peu de pompe. C'est un mec qui aurait fait des cycles, qui aurait fait de l'haltéro jeune, tu vois, de la lutte, etc. Et qu'il aurait eu un prépa, tu sais, avec beaucoup de réflexion. Je te parle ça, il y a des années qu'il est venu Mansour, donc il y a 4 ou 5 ans, il n'avait pas encore gagné.
D'accord.
Il n'avait pas encore gagné le c'était pas le roi d'FC, etc. Donc, il n'avait pas un staff comme il a aujourd'hui, tu vois. Il avait toujours son entraîneur, Aziz, mais il n'avait pas toute une équipe comme peut-être qu'il a aujourd'hui. Mais il faisait des trucs très basiques, en prépa physique, même pas basique. Il faisait un peu de traction, un peu de pompe. Et c'était pas, ça ne pouvait pas... Moi, je faisais beaucoup. Pourtant, je ne suis pas dépourvu de force. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été fort quand même, comme mec. J'ai toujours été petit, costaud. Tu m'as vu physiquement, j'ai toujours été quand même costaud, tu vois.
Ouais.
J'ai toujours été stable, j'ai toujours eu de la force. Mais moi, j'ai travaillé pour être fort.
D'accord.
J'ai quand même travaillé, même si j'étais prédisposé, mais j'ai quand même beaucoup bossé, je suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup testé, j'ai fait des vrais cycles pour être fort, etc., etc. Mais lui, c'est incroyable, quoi. Parce que lui, non seulement il est fort, mais il est fort longtemps, et en plus de ça, il a une pointe de dingue, et en plus de ça, il a un cardio de malade. Moi, je peux courir. Je luttais tous les jours quand j'ai lutté avec lui.
D'accord.
Je faisais ça du lundi au vendredi. Devant lui, je n'ai pas montré que j'étais fatigué. Lui, il ne sait même pas. Quand je suis arrivé aux toilettes, je tombais dans les toilettes. J'en pouvais plus. Lui, je l'ai regardé par le trou des toilettes. Il a pris une respiration. Allez, peut-être qu'il a pris deux respirations. Mais quand je dis deux respirations, il aurait joué à Street Fighter, ça aurait été pareil. Tu vois, et voilà, le mec a des qualités. Il a un VO2 max, je pense, hors du commun, un peu c'est comme Georges Saint-Pierre. Tu vois. Il a des qualités. C'est impressionnant. Voilà. Après, il pourrait les optimiser. Il pourrait encore plus s'améliorer. Tu vois. Mais sincèrement, lui, en l'occurrence, je te parle de lui, hein, lui, en l'occurrence, c'est un fric génétique, quoi. Et en plus de ça, il a cette capacité à encaisser les coups. Et en plus, parce qu'il aurait pu avoir tout ça, et après un combat, passer à côté. Tu sais, il y a des mecs comme ça, ils sont très forts, et après un combat, bon, ils n'ont pas trop de mental, quand ça ne
C'est
va pas dans
ça.
leur sens, eh bien, ils n'arrivent pas. Mais lui, Mansour, que ça aille dans son sens ou pas, mais il va te faire vivre l'enfer. Tu vois, et c'est là où il est incroyable. C'est là où il est incroyable. Et après, tu as des mecs qui ont un fight QI très développé, comme Taylor, qui lui, va jamais rien te donner. Lui, Taylor, c'est de ce côté-là qui m'a impressionné. Parce que Taylor Lapillus, il te donne rien. Il te laisse pas l'opportunité de t'exprimer. Donc, il va te frustrer, en fait. Et en plus, c'est le mec qui scramble le mieux que j'ai jamais vu pour se relever. Tu vois, Taylor est très talentueux. Il est gauche. En fait, Taylor aussi. Taylor, j'avais expliqué que Taylor, en fait, il a tout pour être un grand combattant. Il a un physique. Quand l'UFC, j'y étais moi, quand l'UFC l'a mesuré, c'est de bras à bras, il n'y avait que Joe Jones qui avait plus d'allonge que lui. Il faisait 1,90 m d'envergure, Taylor.
Complètement.
Pour un 61 kg, c'est incroyable. En plus de ça, il est gaucher. Alors ça, il n'a pas choisi d'être gaucher, il est né gaucher. Tu vois? Donc c'est super gênant, un gaucher, surtout quand tu dois le lutter, surtout quand tu dois le boxer. Donc en fait, Taylor, pareil, il avait cet ensemble de combinaisons qui fait qu'il pouvait performer à l'UFC. Parce qu'il avait cette morphologie, ce morphotype, il avait ses talents, il y a plus de ça. Il est coaché par Fernand et Taylor, il est vachement coachable. Tu vois? Donc en fait, c'est un ordinateur, le mec. Donc en fait, il te frustre les mecs, t'as vu comme il combat. Il te touche, il sort, tu vois. Et pareil, lui aussi, il a cette capacité à aller on va dire, au bout du. À embêter n'importe qui dans sa catégorie. Parce qu'il a cet aspect-là qui est complet. Et comme je te dis, le talent, arrivé à un certain niveau, ça suffit plus. Parce que tu vois, je prends un exemple d'un mec. Moi, je pense que le mec le plus talentueux qu'on a jamais vu en France, c'est Saladin. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne qui est comme Saladin. En fait, j'ai jamais vu ça. C'est quand je vois ces matchs, je me dis, ah, c'est pas possible, quoi.
C'est clair.
Le mec, il a un talent de dingue, quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi, d'être aussi fort. En boxe, en lutte, au sol, il sait tout faire, le mec. Tu sais, en plus, physiquement, il est énorme. Il a l'air vraiment balèze. Il a un cardio de malade. Il a un cardio de malade. Il débite beaucoup, tu vois, en plus. Après, bon, après, j'ai vu il a pas un bon ratio de KO. Il a très peu de KO. Donc, je pense qu'il c'est pas un puncher. Mais ça, bon, après, ça, il y a Roald Max Holloway.
Ah
Ça ne me
non,
gêne
c'est
pas,
clair.
Ned Diaz non plus. Mais par contre, eux, ils ont un menton de malade, Max Holloway et Ned Diaz.
C'est clair.
Et maintenant, l'interrogation qu'on va avoir par la suite pour Saladin, c'est sur ses futurs combats. On va voir quand il va affronter des gros punchers, est-ce qu'il a un menton? Je pense que oui, parce qu'il a quand même 16 combats. Il a affronté Morgan. Morgan, il frappe fort quand même,
Yes.
Charrière, tu vois. Il a affronté d'autres adversaires qui frappaient fort. Donc, je laisse supposer que c'était vraiment un véritable accident qui est arrivé. Mais bon, il ne faut pas le sous-estimer quand même, son adversaire. Parce que je pense que c'est quand même lui. Ouais, je pense. Non, non, tu sais, le
Le
Brésilien,
Torres,
là.
Torres.
Ouais, Torres. Parce que je pense que lui, par contre, il cogne, par contre. Je pense qu'il a du punch, pour de vrai, tu vois. Parce que j'ai regardé des combats de lui, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. En fait, il met beaucoup crochet-crochet, tu sais. Hein,
C'est
et
ça.
il connecte les mecs. Donc, il faut être vigilant. Mais après, tu vois, voilà. Après, c'est vrai qu'un mec comme Saladin, je te dis en toute honnêteté, hein, ah, ça fait peur, quoi. D'atteindre un tel niveau. Aussi jeune, c'est quand même flippant, quoi. Tu vois. Mais
C'est clair.
le niveau, ça ne fait pas tout. Après, comme je t'ai dit,
Exactement.
il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et tu vois, Max Holloway, techniquement, je ne pense pas qu'il soit meilleur que Saladin. Mais par contre, on sait que Max Holloway, que ce soit pour une ceinture, pas une ceinture, etc., on sait qu'il va te faire vivre l'enfer. Tu
C'est
vois.
ça, c'est
On le
exactement.
sait. Il a prouvé. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, j'espère que Saladin, ça va aller dans ce sens. Maintenant, je crois que ça y est, là, il va avoir la revanche. J'ai hâte comment on appelle ça, qui prenne cette revanche et qui signe à l'UFC et qu'on le voit s'exprimer au plus haut niveau. Parce qu'en tout cas, le niveau qu'il a, en tout cas techniquement et physiquement, il a vraiment le niveau pour aller à l'UFC. Ça, c'est indéniable. Et et bousculer des gens, quoi.
Exactement. Non, c'est clair, celle-là, vraiment, c'est la prochaine chose qu'à mon avis, tout le monde attend. Mais en tout cas, là, il est revenu avec une victoire au KSW. Je pense que l'objectif, là, c'est à mon avis de reprendre la ceinture. Et puis ensuite, ils verront un peu ce qu'ils font pour la suite. Toi, là, ça va être la toute dernière question, Clément. Est-ce que là, il y a quelqu'un, on va dire, soit un athlète, que ce soit en MMA ou dans un autre sport, qui, depuis, on va dire, là, depuis la rentrée, depuis que tu as toutes tes machines, avec qui tu as commencé la collaboration, avec lequel tu vois, tu te dis, ça va vraiment être intéressant. Un nom en particulier, ou je ne sais pas, tu sais, le prochain gros projet sur lequel tu travailles.
Mais eh bien en fait, ça va te faire marrer. Il y a deux personnes.
Ok.
Il y a mon associé, sur qui je teste tous mes protocoles.
Le cobaye.
Qui devait, voilà, qui devait combattre. Et parce que j'ai passé de recul encore. Hein, j'ai passé de recul. Et moi-même, que j'ai fait ma compétition, tu sais, de culturisme.
Ok. Ouais.
Et donc, j'ai vu, parce que nous, on mesure tout, tu sais, on a des rubans, on mesure tout, on essaye de tout quantifier, on note tout, etc. Et en fait, oui, j'ai vu vraiment une différence assez significative, même sur nos rentrées en double leg, même sur le direct bras arrière, même sur lui, par exemple, son front kick, ou ses scrambles en lutte, ou ses sprawls, etc. On a recueilli pas mal de données qui sont vachement intéressantes, alors qu'ils se voient, fait qu'ils vont se voir, parce que là, vous allez bientôt le voir torse nu, il a vraiment bien évolué. Ils se voient plus sur moi parce que j'ai fait des avant-après, donc c'est parlant pour les gens. Tu sais, des avant-après, c'est des transformations visuelles, on va dire. C'est parlant. Et effectivement, que j'arrive à recruter des groupes musculaires et des muscles que je n'arrivais plus trop à solliciter au fil des années. Mm-hmm. Et là, j'arrive enfin à les recruter. Et j'ai pareil, j'arrivais pas spécialement à recruter ma chaîne postérieure. Et depuis que j'ai quelques outils,
d'accord,
et aussi en l'occurrence les Kaiser, là maintenant, je la recrute comme jamais. Donc, okay, je le vois en lutte. Je vois aussi, que ce soit en gréco ou en libre, que je suis beaucoup plus solide. Mais en tout et pour tout, même sur le travail préventif, le travail prophylactique, j'ai plus d'instabilité, que ce soit au niveau des hanches, des genoux, chevilles, vraiment. Mais j'ai beaucoup de trucs intéressants, mais il faudrait un podcast entier juste pour expliquer tout ce qu'on a pu noter. Parce que vraiment, on a noté pas mal de choses intéressantes. Et je pense que d'ici un an, on aura tout le recul nécessaire pour vraiment en reparler. Et avec plus de précision, tu vois, sur un nombre d'individus beaucoup plus large, on va dire, et dans divers sports.
Eh ben, ça a l'air intéressant, en tout cas, pour la suite. Clément, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon, c'est complet?
Abonnez-vous à la sueur à fond et n'hésitez pas. Je fais la réclame à la Fernand Lopez. Et si vous avez une minute, abonnez-vous aussi à notre chaîne, ça serait super.
Exactement, allez checker la chaîne de Clément. De toute façon, on mettra tes réseaux sociaux et la chaîne dans la description. Le podcast est disponible sur absolument toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et ne vous inquiétez pas, Clément va envoyer les photos d'Abdoulah Godoraguimov. Je suis curieux d'avoir les photos avant, après. Voilà, merci beaucoup Clément.
Ciao Guillaume, merci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.